découvrez NutriTV, la première plateforme vidéo dédiée à la santé intégrative, à la prévention et à la nutraceutique. Des masterclass exclusives animées par des experts reconnus, des émissions et reportages pour mieux comprendre votre corps et les avancées scientifiques. Micronutrition, actifs de santé naturelle, techniques de bien-être. NutriTV, c'est aussi des entretiens inspirants avec des personnalités visionnaires et engagées. Un accès illimité pour seulement 7,99€ par mois. Apprenez, inspirez-vous et enrichissez vos connaissances pour une meilleure santé. Abonnez-vous sur www.nutritv.fr.
Cette émission vous est présentée par Nutrilogix, laboratoire engagé auprès des professionnels de santé. Nutrilogix offre des solutions naturelles, innovantes et durables pour que chacun vive en pleine santé et en équilibre dans son environnement.
Santé 360, Amin Ghasmi sur Nutri Radio.
Amin Ghasmi, bonjour.
Bonjour Fabrice.
Quel plaisir de vous retrouver chaque semaine sur Nutri Radio, c'est la fin de cette saison. Je pense qu'on va se retrouver la semaine prochaine, l'année prochaine, et en plus, d'après ce qu'on s'est dit, on va vous retrouver aussi dans l'émission TV Expérience Santé, vous viendrez nous faire un petit coucou.
Exactement, oui.
Ah ouais, on va faire de belles émissions, je peux vous dire que là ça va être une autre ambiance sur le plateau, émission Expérience Santé, premier talk show consacré à la santé intégrative qui mêle expertise santé et humour, à retrouver sur Nutri TV, mais aussi gratuitement d'ailleurs sur YouTube, et ça fonctionne très très bien. Merci à notre partenaire, Laboratoire Nutrilogix, qui nous permet de vous donner gratuitement ces contenus chaque semaine. Merci à eux, des partenaires et un laboratoire engagé, dont les formules, les synergies de compléments alimentaires, eh bien, sont conçues par des professionnels de santé pour des bons dosages, pour des bons actifs, et surtout une bonne efficacité, donc c'est basé sur la science. Merci à eux. Et puis, puisqu'on est dans la catégorie remerciements, je voudrais vous remercier, chers auditeurs, d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. Merci de penser à vous abonner, c'est important. Abonnez-vous, partagez, voilà, faites plaisir à tout le monde. Ne gardez pas ces enseignements pour vous seuls. On continue, on va terminer cette trilogie donc sur la B12. Et une trilogie sur la B12, je peux vous dire que c'est pas donné à toutes les radios, tous les médias d'en faire. Je crois que c'est une première mondiale, on prend tous les risques. On prend tous les risques, mais on n'a pas tout dit sur cette B12. On a parlé de plein de choses, à quel point elle est indispensable, à quel point les dosages sont pas forcément aujourd'hui d'actualité. On va pas trop faire, évidemment, les podcasts sont disponibles. Maintenant, je voudrais savoir, mon cher ami,
oui.
Est-ce que on sait que la B12 dépend directement de l'acidité gastrique pour être correctement absorbée? Est-ce que la baisse de l'acidité gastrique avec l'âge, elle est sous-estimée?
Tout à fait, Fabrice. L'hypochlorhydrie est sous-estimée, et tu sais que en général, quand on a des gastrites, donc des inflammations de la muqueuse gastrique, ça donne des douleurs assez importantes. Donc, celles et ceux qui ont eu ce genre de situation ou qui ont un proche qui a une gastrite, ils savent très bien de quoi je parle. Ça peut donner des reflux, etc. Et alors, tu sais que très souvent, on va considérer que ces situations de gastrite sont plutôt dues à une hyperchlorhydrie. Et ça, c'est un gros sujet, parce que ça implique concrètement qu'on pratique, qu'on va utiliser des IPP et des antiacides pour traiter la gastrite, qui est en réalité est juste de l'hypochlorhydrie. Alors, la situation ici, parce que c'est intéressant, hein, la question que tu as posée est intéressante en rapport avec la B12, mais tu vas comprendre qu'en fait, toutes ces situations de gastrite compliquée, d'une infection H. pylori, par exemple, Helicobacter pylori, et plein d'autres situations de ce type-là, sont en fait dues à ce que l'on pourrait appeler la maladie de la muqueuse gastrique. Et comme l'HCL ou l'acidité gastrique est produite par la muqueuse gastrique, donc les cellules épithéliales de la muqueuse gastrique, donc en fait, quand il y a une détérioration de ce tissu-là, de la muqueuse gastrique, on va forcément avoir moins d'HCL et donc moins de tout le reste, les enzymes, le facteur intrinsèque là, qui se lie, dont on avait dit, qui se lie dans le duodénum à la B12, la transcobalamine 3, etc. Et donc, quand on va aller traiter donc, cette gastrite-là par des IPP, alors on peut faire faire un traitement par IPP sur une courte période afin de soulager le patient. En général, les recommandations, c'est autour de 2-3 semaines, si j'ai bonne mémoire, les recommandations de la Haute Autorité de Santé, en France en tout cas. Mais tu vois bien que ce n'est pas le cas en pratique et qu'on met des patients sous IPP pendant des années et des années. Donc ça, ça fait quoi? Ça fait aggraver encore beaucoup plus l'hypochlorhydrie et donc ça revient à la question que tu posais. Oui, effectivement, les hypochlorhydries sont très fréquentes, beaucoup plus fréquentes que ce qu'on pourrait penser, et c'est pas juste des hypochlorhydries qui sont dues uniquement à un mauvais style de vie, c'est aussi des hypochlorhydries qui sont mal diagnostiquées et qui sont aussi induites parfois et souvent aggravées, entretenues par des traitements antiacides et des IPP. Et ça, c'est un très gros sujet, un très gros problème. Parce que quand on regarde la physiologie de la muqueuse gastrique, ça n'est pas possible d'avoir des situations d'hyperchlorhydrie sur le long terme, ça n'existe pas. Donc, ça n'existe pas. On peut avoir ponctuellement des hyperchlorhydries et encore, c'est extrêmement rare. Des situations, par exemple, de SAMA, de syndrome d'activation mastocytaire. Là, on peut avoir des hyperchlorhydries qui sont fréquentes, mais jamais en continu. Par contre, l'hypochlorhydrie, c'est vraiment un gros sujet et on peut avoir une hypochlorhydrie en continu. Et donc ça, c'est un gros sujet, effectivement. Avec l'âge, on a ces problèmes d'hypochlorhydrie, mais aussi avec les traitements médicamenteux.
Merci pour cette précision. C'est important, Amine. On a évoqué la B12 et certaines maladies, d'ailleurs, il me semble, dans la première émission, notamment Alzheimer.
Effectivement.
Maintenant, est-ce que, si on reste sur le cerveau, est-ce que, d'après ce que j'ai entendu, la vitamine B12, et donc pourquoi elle serait aussi importante pour la myéline? Et vous pouvez nous rappeler peut-être ce qu'est la myéline?
Oui, alors la myéline, c'est dans le cerveau, en neurophysiologie, on parle dans le système nerveux, on parle de matière grise et de matière blanche. Bon. Et la matière blanche est formée en partie la matière blanche, c'est des fibres nerveuses et entourées, donc ces fibres nerveuses sont entourées de myéline, ce qu'on dit gaine de myéline. Alors, la myéline, c'est une substance lipidique, graisseuse, qui contient des phospholipides, des céramides et autres types de graisses, qui provient et qui est synthétisée par des cellules qu'on appelle des cellules qui sont des cellules périphériques du système nerveux, qu'on appelle des cellules de Schwann. Et donc, ces cellules de Schwann produisent cette substance qu'est la myéline, qui va entourer les fibres nerveuses et donc les nerfs, et qui a un rôle majeur dans la transmission de l'influx nerveux. Donc, un nerf qui est moins myélinisé ou qui est démyélinisé va moins transmettre l'influx nerveux et on va avoir... ça dans un certain nombre de troubles neurodégénératifs. Parkinson, par exemple, ça va être une dégénérescence, on dit, ou une démyélinisation de ce qu'on appelle la voie nigro-striée, qui est entre deux noyaux gris centraux, le locus niger et le striatum. On a, par exemple, la sclérose en plaques, là où c'est vraiment une démyélinisation généralisée, etc., etc. Donc, cette myéline est extrêmement importante pour le fonctionnement du système nerveux. Ça forme une partie de ce que l'on appelle la matière blanche. Et la vitamine B12 est nécessaire pour la synthèse de la myéline parce que les cellules de Schwann utilisent la vitamine B12 en très grande quantité. Et donc là, on a un des rôles, tu touches à un des rôles majeurs de la vitamine B12, pas uniquement la mémoire, parce que souvent quand on parle de vitamine B12 en rapport avec le système nerveux, en réalité on pense à la mémoire, la synthèse de tel ou tel neurotransmetteur, l'acétylcholine, etc. Mais en réalité, la B12, elle a un rôle encore plus important dans le système nerveux, qui est justement cette synthèse de la gaine de myéline, et justement d'empêcher la démyélinisation et donc les processus neurodégénératifs, et donc de maintenir un bon fonctionnement de ces fameuses cellules de Schwann.
Est-ce que si on élargit à la psychiatrie, est-ce qu'on pourrait dire qu'elle sous-estime les déficits en B12 ? Est-ce que ça pourrait être aussi une nouvelle approche clinique ?
Bah, pareil, en fait, c'est ce qu'on avait dit. Comment un pro de la santé, un médecin, va-t-il évaluer le niveau de B12 ? Bah, il va faire une analyse, une prise de sang. Et il va voir, constater le taux de B12. Mais si la limite inférieure est autour de 200, ben on n'est pas sorti de l'auberge. En fait, quand on fait toute analyse en médecine fonctionnelle, quand on fait toute analyse, pas que la B12, il faudrait voir, il y a un principe, ce qu'on appelle le principe de la plausibilité du résultat. Et il faudrait voir si ce résultat-là est plausible avec toutes les autres données qu'on a. Par exemple, est-ce que la personne se supplémente ou pas en B12 ? Est-ce qu'elle mange des aliments riches en B12 ? Est-ce qu'elle n'aurait pas des maladies, des pathologies, etc., comme ce qu'on avait dit lors de la dernière mission, des pathologies hépatiques, insuffisance rénale, etc., etc. Et donc, on évalue le tout, le terrain, le contexte global, les antécédents, et on regarde combien on a de B12 dans l'analyse sérique. Et à partir de là, on se dit « Ok ». En fonction de toutes les données qu'on a, en fonction du taux de B12 qu'on a ici, qui semble être plausible par rapport à la situation actuelle du patient, et en fonction de toutes les autres données, on considère que ce patient, il est carencé, pas carencé, moyennement carencé, sévèrement carencé, etc. Et donc, si on ne fait pas ce travail-là, comment tu veux qu'on détermine le vrai pool de B12, le vrai stock de B12 et le vrai état du patient par rapport à sa B12. Donc, que ce soit en psychiatrie ou dans n'importe quelle autre situation, jusqu'à maintenant, globalement, il n'y a que un certain nombre, on va dire, de médecins fonctionnels ou de praticiens de la santé fonctionnelle, qui font ça. Voilà.
Bien, vous savez ce dont on n'a pas encore parlé, et on va le faire juste après la pause, les différentes formes de B12. Parce que est-ce qu'elles se valent toutes ? Il y en a plusieurs, à mon sens, quatre. Je dis à mon sens, j'ai quand même vérifié. Bon, c'est pour ça que je dis peut-être que j'ai mal vérifié. Et puis surtout, on va parler des végétariens et des végétaliens, parce que c'est un sujet incontournable. Est-ce qu'on peut être végétalien sans supplémentation en B12 ? Est-ce que les algues, ce sont des sources fiables ou pas ? Est-ce que les enfants végétaliens sont une population à risque ? Et combien d'années il faut avant d'épuiser les réserves ? On évoquera ça juste après la pause.
Vous êtes passionné de santé, professionnel ou simplement acteur de votre bien-être ? Découvrez Nutrilogix. Notre vision, être une référence en santé naturelle et innovante. Notre mission, offrir à chacun des solutions accessibles et durables pour vivre en pleine santé et en équilibre avec son environnement. Parce que la santé de demain se construit aujourd'hui. Nutrilogix, révolutionnons la santé.
Santé 360, Amin Ghasmi sur Nutri Radio.
Allez, on termine cette émission sur la vitamine B12. Ces trois émissions, la trilogie, Non, j'allais faire un mauvais jeu de mots. Je ne vais pas le faire, du coup, parce que c'est pas spontané. Ça a perdu tout son charme. D'ailleurs, je fais de moins en moins de jeux de mots. Je vais me rattraper cet été en allant me balader du côté de chez Amine, car je sais que les conversations tardives sont vraiment génératrices de blagues en tout genre, n'est-ce pas, mon cher Amine ?
Exactement, oui. Tu es le bienvenu.
Bon, en tous les cas, on termine cette trilogie donc sur la B12. On va aborder maintenant un sujet qui est aussi très intéressant. Ce sont les différentes formes. Parce qu'on se dit, tiens, je vais me complémenter en B12. Oui, mais une fois qu'on sait ça, c'est le début de quelle forme choisir ? La cyanocobalamine, la méthylcobalamine, l'adénosylcobalamine, l'hydroxocobalamine, l'abalamine ou la mélamine. Bon, ou amine, c'est la mélamine, ou amine Ghasmi. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment s'est retrouvé, mon cher Amine ?
Alors, pour commencer, donc on a des formes précurseurs et des formes bioactives. Enfin, forme précurseur, c'est pas des formes actives, ça va juste se convertir en formes bioactives qui sont censées donner l'effet dont on avait parlé, les différents effets de la B12. Donc, les formes précurseurs, on a la cyanocobalamine, qui est une forme synthétique, et on a la forme naturelle, donc précurseur, qui est l'hydroxocobalamine. Donc, l'hydroxocobalamine, c'est une forme qu'on trouve dans les aliments. Donc surtout, tout le monde sait que c'est plus les aliments d'origine animale, on va trouver de la B12. Alors, on a aussi deux formes bioactives, donc la méthylcobalamine et la adénosylcobalamine. Voilà un peu les quatre formes dont tu parlais tout à l'heure. Donc, la cyanocobalamine étant une forme synthétique, eh bien, comme son nom l'indique, cyanide, cyanure. Donc, il y a un groupement cyanide dans chaque molécule de B12 de cyanocobalamine à détoxifier. Donc, ça se détoxifie, ça s'élimine. Voilà. L'hydroxocobalamine, c'est plutôt intéressant parce que c'est cette forme-là qu'on trouve dans les aliments. Et donc, de préférence, si on voudrait utiliser une forme précurseur, ça serait plutôt l'hydroxocobalamine plutôt que la cyanocobalamine.
Ah, et pourquoi on parle tout le temps de méthylcobalamine ?
Alors, justement, la méthylcobalamine, c'est une forme bioactive, mais qui n'agit pas dans la mitochondrie. Ça agit dans la cellule, mais en extra-mitochondrial. Donc là, par exemple, on a parlé lors des dernières émissions de l'intérêt de la B12 dans la méthylation, dans la baisse de l'homocystéine, tout ça. Donc c'est cette méthylcobalamine qui intervient. On a parlé tout à l'heure du rôle de la B12 dans la synthèse de l'acétylcholine, par exemple, dans la mémoire. Tout ça, donc pareil, c'est la méthylcobalamine. Donc on va dire que pour une bonne partie des fonctions métaboliques de la B12, par exemple aussi la production de l'hémoglobine, l'hématopoïèse avec la vitamine B9, et ben c'est la méthylcobalamine. Maintenant, la forme mitochondriale, c'est l'adénosylcobalamine, et là c'est une forme mitochondriale qui va jouer le rôle de cofacteur du cycle de Krebs pour produire de l'ATP. Donc globalement, c'est cela. Donc l'adénosylcobalamine, c'est plutôt une indication liée à l'énergie, la fatigue. Et la méthylcobalamine, c'est plutôt toutes les autres indications métaboliques. Donc ça, c'est les formes bioactives. Après, on n'est pas obligé d'utiliser que des formes bioactives, hein, parce que c'est intéressant aussi d'avoir une forme précurseur, parce que quand l'organisme a besoin de telle quantité de méthylcobalamine et de telle quantité d'adénosylcobalamine, le fait de lui donner le précurseur, bah, ça va permettre d'orienter le précurseur en fonction des besoins.
On peut donner les deux ?
Oui, on peut. En fait, ça serait intéressant que le produit B12 qu'on va utiliser contienne en fait au moins deux formes, voire les trois formes. C'est-à-dire l'hydroxocobalamine déjà, ça c'est important, plus donc la méthyl et l'adénosyl. Et en plus de cela, puisqu'on parle des ingrédients ici, il y a le fameux facteur intrinsèque. Tu sais qu'il y a très peu de produits de B12 qui complètent donc leur contenu en B12 par le facteur intrinsèque. Ça existe. B12 plus facteur intrinsèque, c'est très important, pas pour tout le monde bien entendu, mais pour les personnes qui ont des vrais syndromes de malabsorption de la B12, c'est très important qu'ils aient aussi le facteur intrinsèque avec ces différentes formes. Donc ce qu'il faut éviter au mieux de prendre, c'est la cyanocobalamine. Alors, ça n'a pas une toxicité majeure, il ne faut pas non plus exagérer la toxicité de la cyanocobalamine. C'est aussi une forme... précurseur convenable qui ne s'absorbe pas forcément de la même façon. Oui.
C'est convenable, mais ça sert à rien. On a compris.
ça s'absorbe peut-être légèrement moins que l'hydroxocobalamine, mais c'est bien métabolisé. Et après, le groupement cyanide, bien sûr, ça se détoxifie, mais ça, c'est ce qu'il y a de plus, en fait, on va dire, qui est légèrement un petit peu problématique par rapport à la cyanocobalamine. Mais le mieux, c'est, quand on a le choix, hydroxocobalamine, méthylcobalamine, adénosylcobalamine, avec une petite précision, c'est que l'adénosylcobalamine, en général, ça passe mieux en sublingual qu'en péros. Et donc, en sublingual, si on a affaire à une vitamine B12 en sublingual, ça serait plutôt de l'adénosylcobalamine et non pas l'hydroxo ou la méthyl. Et si on a une B12 qui passe en péros, ça serait plutôt de l'hydroxocobalamine ou de la méthyl. Alors, on peut aussi mettre de l'adénosyl avec parce que ça s'absorbe quand même au niveau de l'intestin. Mais le plus important, le point de vigilance, c'est que quand on a une forme adénosylcobalamine uniquement, le mieux, c'est que ça soit en sublingual.
Et il paraît même qu'il y a des injections de B12, c'est vrai ?
Oui, exactement. Tu abordes un sujet d'une importance majeure. Les médecins me posent tout le temps ces questions-là en formation.
C'est parce que je suis un peu médecin, moi aussi. Vous savez, depuis le temps, j'ai envie de m'appeler Dr Fabrice. Hein. Mais ne venez pas me voir.
Et donc, je disais que par rapport aux injections, justement, alors, le souci avec la B12, c'est qu'on ne sait pas comment l'utiliser réellement. Parce qu'on avait abordé ça, si je me souviens bien, aux premières émissions, je disais qu'il y a un certain nombre de critères à respecter afin que la B12 soit bien absorbée. Donc, entre autres, le fait que ça soit pris au cours d'un repas, malgré que ça soit une vitamine hydrosoluble, on avait déjà expliqué tout ça, un petit repas qui contiendrait des protéines, tout ça, etc. Le fait d'utiliser la bonne forme, la bonne fourchette de dosage, aussi probablement, si nécessaire, dans des cas de malabsorption majeure, ajouter du facteur intrinsèque et tout ça. Donc, en général, quand on respecte ces règles-là et ces critères-là, on a une très, très bonne absorption de B12. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas besoin d'avoir recours à des injections de B12. Maintenant, ces injections de B12, à mon sens, aujourd'hui, sont utilisées de manière un peu abusive, juste par mes connaissances, hein, juste par mes connaissances, parce que les médecins que je forme et qui vont appliquer les règles là pour une bonne absorption de la B12, en général, ils n'ont que très rarement recours aux injections. Alors maintenant, pourquoi les injections de B12 posent un problème ? C'est pas toxique ou quoi ? C'est juste que il faut considérer que on revient toujours à la biochimie, à la physiologie. Il faut considérer que le plus gros stock de B12 se trouve où ? Il se trouve dans le foie. Quand on prend de la B12, ça va s'absorber dans l'intestin, dans les entérocytes, et ensuite, on a quoi ? On a la veine porte qui ramène où ? Directement dans le foie, ce qu'on appelle le premier passage hépatique. Et donc, toute B12 qui est absorbée passera par le foie en premier lieu, donc sera forcément en bonne partie stocké, le reste sera largué, relargué dans le sang pour un usage tissulaire ailleurs. Maintenant, une fois qu'on a fait une injection de B12, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, on n'a pas de premier passage hépatique. On va avoir beaucoup plus d'élimination rénale, ce qui ne veut pas dire que ça ne sert à rien. Mais sur le moment, on voit que le taux de B12 a augmenté, mais ensuite, ça rechute assez rapidement. Au bout de quelques jours, dans un certain nombre de cas, quelques semaines, ça rechute. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas stocké suffisamment de B12, parce qu'il n'y a pas eu de premier passage hépatique. Voilà un petit peu la situation par rapport à l'injection de B12. Donc, la prise par voie orale est prioritaire par rapport à l'injection.
D'accord. Et alors, moi, je trouve ça fou quand même, ce que vous me dites, parce que ça retombe au bout de quelques jours, mais par rapport au foie, ça veut dire que d'abord, avant de faire une supplémentation en B12, enfin, il faut d'abord regarder l'état du foie et remettre son foie en pleine forme.
Oui, ça c'est bien sûr, ça on le fait, que ce soit voilà, pour supplémentation ou pas, de toutes les façons, il faudrait prendre en charge pas que le foie, parce que le foie il fait partie du système digestif, donc il faut remettre en état le système digestif, on a dit, hein, de l'estomac jusqu'au grêle, hein, jusqu'à l'hélion, il faudrait le remettre en forme. Le foie, bien entendu, pour une bonne production de bile, de bonne qualité, etc. L'estomac pour l'acidité gastrique, l'intestin pour l'hélion et l'absorption et la cubuline, et le récepteur du facteur intrinsèque, etc., etc. Donc oui, il faudrait prendre en charge les troubles digestifs que la personne présente, afin que la vitamine B12 soit absorbée de façon optimale et stockée et utilisée de façon optimale, effectivement.
Ok, mais écoutez, on a encore plein de choses à dire, notamment sur l'axe végétalien, mais on le fera peut-être la saison prochaine, parce que à mon avis, là, il faut mener de bonne compagnie, qu'il ne se quitte, et trois émissions sur la B12, c'est pas mal, on reprendra ça, il y a beaucoup de choses à dire, on reviendra dessus, bien évidemment. Mon cher Amine, merci à vous, je vous dis à très vite sur Nutri Radio, l'émission, vous la retrouvez en podcast, de toute façon, on se voit la semaine prochaine pour une dernière émission, hein, mais cette émission, vous la retrouvez en podcast maintenant, ça y est, allez en ligne. Merci beaucoup si vous n'êtes pas sur le live. Pensez à partager, pensez à vous abonner. Et moi, ce que je vous propose, Amine, pour la dernière émission de la saison, c'est de répondre. On a reçu de nombreuses questions, auditeurs, depuis que vous êtes à l'antenne. On ne les a pas encore traitées. Je vous propose d'en prendre une bonne partie et de faire ça la semaine prochaine. Ça vous va ?
Avec grand plaisir, Fabrice.
Eh bien, on fait ça, retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. Restez avec nous, il y a encore de belles émissions, évidemment, même si c'est le début de soirée sur le live.
Santé 360, Amin Gasmi sur Nutri Radio.